Chapitre 6. Aurelio. Aurelio surveilla le magasin de la 58e rue jusqu'à la nuit tombée. La femme ne ressortit pas. Par deux fois, il avait vu des gens s'arrêter devant, comme s'ils hésitaient à y entrer. S'ils l'avaient fait, il les aurait suivis, mais ils avaient tous repris leur route. À un bloc au nord, près des barricades qui séparaient la Dark Zone de l'extrémité sud de Central Park, il entendit une courte rafale de tir, suivie une minute plus tard d'un unique coup de feu, provenant cette fois d'un fusil à pompe. Il contacta la salle sécurisée de la JTF la plus proche, sur Madison.
« Ici Dias, coup de feu près de la barricade de la DZ sur la 59e rue. La JTF est impliquée ?»«
Négatif, »
répondit une voix que l'agent associa aussitôt à Ed Tran, l'officier de renseignement en poste là-bas.
« On n'a aucun homme dans la zone. »«
Bien reçu, Ed. Dias, terminé. »
Il reprit son observation du magasin, puis regarda les étages supérieurs. Il aperçut une faible lueur au deuxième étage, comme si la lumière était allumée dans l'une des pièces du fond. Quelque chose clochait, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Il rappela la salle sécurisée.
« Ed, tu peux vérifier une adresse pour moi ?» 117 Ouest, 58.
La JTF conservait des dossiers très précis sur ses contacts, scientifiques, techniques, logistiques et leur position. Même s'il aurait été surprenant que l'un de ses atouts soit logé dans la Dark Zone, cela aurait pu expliquer pourquoi la personne qui vivait là n'avait aucune protection visible. Cela dit, des gardes pouvaient être postés à l'intérieur ou d'autres dispositifs de sécurité y être installés.
« Enregistré au nom de Koopman Roger, » répondit enfin Ed. « Statut incertain. J'ignore de qui il s'agit et pourquoi on le surveille.
Tu peux te renseigner ?»«
Bien sûr. »«
Merci Ed, je te rappelle. »
Dias changea de position et passa ses options en revue. Un autre coup de feu retentit près de la barricade. Il arrivait que des abrutis se saoulent à l'alcool maison ou se défoncent au solvant industriel, avant de se mettre à tirer en l'air. Mais le plus souvent, les coups de feu étaient synonymes d'ennui. Qui que soit cette femme qui l'avait suivie, elle ne sortirait pas seule de la Dark Zone en pleine nuit. Pas au vu de la prudence dont elle avait fait preuve en plein jour. Elle savait l'endroit dangereux, et savait comment assurer sa sécurité. Elle passerait la nuit chez, ou avec, Sir Roger Koopman. Et si elle ne le faisait pas, pensa Dias en entendant une nouvelle décharge du fusil à pompe, elle devrait se débrouiller. Il ne pouvait rester à surveiller la porte alors qu'une fusillade faisait rage à deux pas de là. Il se faufila hors de son poste d'observation et tourna sur la 6e avenue, son G36 à hauteur de taille. Des tirs retentirent au coin de la rue, vers l'ouest, sur la 59e. Lorsqu'il y arriva, il regarda vers la gauche. L'ATH qu'affichaient ses lentilles repéra une silhouette qui courait en direction de l'ouest. Un homme, aucune arme visible. Aurelio le mit en joue, par réflexe, puis baissa son arme. Rien n'indiquait qu'il était impliqué, ni pourquoi. Des cadavres jonchaient la rue qui jouxtait le mur de la Dark Zone. L'un d'eux était avachi contre les murs jersey qui formaient la base de la barricade, surplombé de plaques de tôle ondulée et de panneaux de contreplaqué, eux-mêmes recouverts de fils barbelés. Par endroits, le mur était aussi constitué de conteneurs mis bout à bout ou d'autres matériaux de construction. Tout dépendait de ce que la JTF avait eu sous la main lorsqu'elle avait tracé les limites de la Dark Zone en décembre. Deux autres corps reposaient l'un à côté de l'autre en plein milieu de la rue. Un quatrième se trouvait à 5 ou 6 mètres de là, à cheval sur le trottoir, devant un hôtel incendié. Aurelio crut le voir bouger. Il avança, en songeant qu'il n'avait pas d'équipement médical de secours pour traiter une blessure par balle. Il ne pouvait cependant pas rester là sans rien faire. Et si la blessée était encore en vie, Aurelio était maintenant assez près pour distinguer qu'il s'agissait d'une femme, elle pourrait peut-être lui dire ce qui s'était passé. Les banals affrontements de rue n'était pas la préoccupation principale de la division. Mais s'il s'agissait d'un nouveau gang ou d'une milice inconnue, mieux valait être au courant. Arrivé à 5 mètres de la victime, il entendit un léger frottement derrière lui, sur le trottoir. Baissant immédiatement la tête, il se pencha vers la gauche, mais reçut quand même un grand coup dans le haut du dos, sur la droite. Son sac absorba une partie de l'impact, mais ce ne fut pas suffisant pour l'empêcher de tomber à genoux. Afin d'éviter la prochaine attaque, Aurelio plongea vers la droite, son instinct lui soufflant que son agresseur devait être droitier. Bien lui en prit. Un bruit métallique retentit là où il se trouvait un instant plus tôt. Diaz leva les yeux. Devant lui se tenait une montagne de haine dont l'absence de cheveux était compensée par une barbe abondante. Un cinglé de la Dark Zone. Il brandissait un pied de biche et s'apprêtait déjà à porter un nouveau coup. Sans se relever, Aurelio empoigna son G36 et tira une courte rafale en laissant le recul faire le travail. Sa cible fut touchée des jambes jusqu'en haut du torse, puis lâcha son arme qui tinta de nouveau sur le sol, avant de se recroqueviller et de s'écrouler. Aurelio bondit sur ses pieds et pivota sur lui-même. Son ATH ne repéra personne d'autre dans la rue. Il jeta un coup d'œil à l'homme qu'il venait d'abattre pour s'assurer qu'il ne se relèverait pas. C'était peu probable. Les deux orifices de sortie qui lui déchiraient le dos laissaient peu de place au doute quant à son état, et même s'il avait survécu, la première balle l'avait atteint juste au-dessus du genou gauche. Ce n'était pas l'homme qu'il avait vu prendre la fuite. Il était trop gros et n'aurait pas pu faire le tour du bloc pour lui arriver dans le dos aussi vite. La scène avait donc eu au moins un autre témoin, mais Aurelio y repenserait plus tard. Il s'approcha de la femme et s'accroupit à côté d'elle. Elle était morte. Son flanc gauche, couvert d'une veste en cuir et d'une chemise en flanelle, avait été mis en charpie par un tir de chevrotine. Près d'elle, un petit automatique traînait dans le caniveau. Il fit demi-tour pour examiner les autres cadavres. Aucun ne portait d'uniforme. Les deux qui étaient dans la rue se faisaient face. Le premier était le propriétaire du fameux fusil à pompe, tandis que l'autre avait un Glock des forces de police. Ils semblaient s'être entretués. Recroquevillé contre le mur de la Dark Zone, le troisième avait manifestement succombé au pied de biche qui avait failli briser le crâne d'Aurelio. Son crâne était enfoncé sur le côté gauche, au-dessus de l'oreille, et en plein milieu du cuir chevelu. Quel qu'ait été l'ordre des coups, le second était superflu. Il s'agissait donc apparemment d'un affrontement entre deux groupes hostiles de la DZ. C'était monnaie courante. S'il était arrivé 2 minutes plus tôt, il aurait peut-être pu intervenir. Cela dit, il aurait tout aussi bien pu y laisser sa peau. Et ses bandes rivales pouvaient parfaitement n'être que des trafiquants de drogue ou d'êtres humains. Parfois, la Dark Zone déprimait un peu Aurelio. Dans le reste de la ville, il voyait que le travail et les sacrifices des agents de la division commençaient à payer. C'était moins vrai ici. Il descendit la 59e rue et sortit par un point de contrôle juste au nord du mémorial, le long de la bordure est de Central Park.
« Le boîtier de votre espèce de bloc est fendu ?»
l'avertit l'un des gardes de la JTF quand il passa devant lui.
« Merci, » répondit Aurelio. « Je regarderai ça. »
30 minutes plus tard, il arriva dans la salle sécurisée du bâtiment qui hébergeait autrefois le centre communautaire juif de la 92e rue. Par courtoisie professionnelle, il se présenta à l'officier de permanence de la JTF, puis se mit à manger. Il nettoya ensuite son G36 et jeta un œil à son bloc Isaac. Effectivement, le pied de biche en avait bien fendu la coque. Heureusement, elle tenait encore en place. Diaz poussa un long soupir. Il avait quitté la salle sécurisée de Murray Hill depuis 16 heures. Il songea à la femme qui avait rendu visite à Roger Koopman. Il songea à l'homme qu'il avait vu s'enfuir sur les lieux de la fusillade. Il songea enfin à Ivan et Amelia et se demanda comment ils se portaient. Bientôt, il rentrerait à Washington. Ce fut la dernière chose à laquelle il pensa vraiment avant d'ôter ses bottes, de s'allonger sur un lit de camp et de s'endormir.